VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Abdourahmane Dia en direct de Washington pour vous présenter cette édition de 19h30 temps universel du mardi 19 décembre 2017 au sommaire. Manifestation avortée de l'opposition en RDC qui voulait exiger une nouvelle fois le départ du président Kabila. Retour annoncé pour ce week-end à Bamako de l'ancien président malien Amadou Toumani Touré. L'Arabie Saoudite a intercepté un missile au-dessus de Riyad pour la deuxième fois en deux mois. Ici aux États-Unis, l'enquête est ouverte pour déterminer les causes de l'accident de train qui a fait trois morts et une centaine de blessés hier dans l'État de Washington. Ne ratez pas les informations sur l'actualité économique et les sports. Mais tout d'abord, le journal. En République démocratique du Congo, un nouveau rendez-vous manqué pour le rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement. La marche annoncée par son président Félix Tshisekedi pour exiger la tenue des élections conformément à l'accord du 31 décembre 2016 n'a pas eu lieu. Dans plusieurs chefs-lieux des provinces, des personnes qui s'apprêtaient à manifester ont été dispersées par la police. Les détails avec Thierry Kambundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Sous une fine pluie à Kinshasa, les forces de l'ordre étaient déployées dans tous les grands carrefours et points chauds de la capitale mardi jusqu'en fin d'après-midi. La police nous a empêché la jonction avec nos militants qui devaient se faire à l'échangeur limité, mais ça ne nous décourage pas. Nous savons que notre peuple est acquis au changement, a dit Félix Tshisekedi, bloqué au siège de l'Union pour la démocratie et le progrès social à quelques mètres du lieu prévu pour le rassemblement. À Bukavu, au sud Kivu, un groupe de personnes a été dispersé à la place à Niawera, où ils se rassemblaient en vue de répondre à l'appel à manifester lancé par le rassemblement. Même constat à Mbujima et au Kasai Oriental, où des militants de l'UDPS ont été dispersés par la police alors qu'ils s'apprêtaient à marcher, tout comme à Kananga au Kasai Central. À Goma, à Lubumbashi comme ailleurs, le constat est le même. La marche de l'opposition qui exige toujours le départ de Joseph Kabila du pouvoir le 31 décembre prochain, si les élections ne sont pas organisées, n'a pas eu lieu. Kinshasa, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Quatre personnes ont par ailleurs trouvé la mort hier dans le déraillement d'un train de marchandises dans le centre de la RDC. L'accident a eu lieu dans la province du Kasaï central et selon un responsable de la Société nationale de chemin de fer du Congo à Kananga, l'ensablement du réseau ferroviaire est à l'origine de l'accident. En novembre, 35 personnes avaient été tuées dans le déraillement d'un train de marchandises qui transportait aussi des passagers clandestins faute d'autres moyens de locomotion dans le Katanga. L'attaque au couteau perpétrée samedi contre deux Danois à Libreville était un acte prémédité, selon le procureur de la capitale gabonaise. L'enquête a révélé que l'agresseur, un Nigérien de 53 ans vivant au Gabon depuis 19 ans, selon lui donc, l'assaillant avait filé le couple depuis le couple danois et prémédité son agression. L'ancien président malien Amadou Toumani Touré devrait bientôt rentrer de son exil sénégalais. L'annonce a été faite par des membres de sa famille politique. ATT s'est réfugié au Sénégal il y a 6 ans après le coup d'État mené par le capitaine Amadou Aya Sanogo. L'Assemblée nationale a renoncé à le poursuivre. Et pour plus de détails, Mohamed Touré a joint à Bamako le secrétaire à la communication du Parti pour le développement économique et la solidarité, Noum Togo.
Les conditions qui sont réunies à travers l'ensemble de nos recherches, à l'ensemble de nos activités que nous avons menées auprès du président de la République, son excellence Ibrahim Boubacar Keïta, avec la communauté internationale, ont finalement pu convaincre le président. Il a pris la décision politique de demander au président de retourner. Et le président Amadou Toumani Touré a accepté. Et les conditions sont réunies. Et le dimanche 24, il envoyera l'avion présidentiel pour aller chercher le président Amadou Toumani Touré à Dakar, destination Bamako.
C'était Noum Togo, le secrétaire à la communication du Parti pour le développement économique et la solidarité au Mali. Le Haut Commissariat aux réfugiés des Nations Unies compte évacuer vers d'autres pays entre 5 000 et 10 000 réfugiés en situation très vulnérable en Libye. Selon Roberto Mignone, son représentant en Libye, il est impossible pour l'instant de fournir un chiffre exact parce que cela dépendra du nombre de réfugiés qui pourront être accueillis par des pays de l'Europe, le Canada ou autres. Monsieur Mignone a ajouté que depuis novembre, une centaine de réfugiés ont déjà été évacués vers le Niger. Le champion paralympique sud-africain Oscar Pistorius a saisi la Cour constitutionnelle pour faire appel de sa condamnation à 13 ans de prison. Il a été reconnu coupable du meurtre de sa compagne. Fin novembre, l'athlète amputé des deux jambes avait vu sa peine de prison passer de 6 à 13 ans de prison après un appel du parquet.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Trois personnes sont mortes et une centaine d'autres ont été blessées dans l'accident de train reliant Seattle à Portland, dans le nord-ouest des États-Unis. Les derniers développements avec Raissa Girondin.
Le train qui assurait la liaison entre Seattle et Portland a fini sa course sur l'autoroute lundi, faisant trois morts et une centaine de blessés, dont des automobilistes. Le train passait sur un pont enjambant une autoroute dans l'État de Washington lorsque 13 de ses 14 wagons sont sortis des rails. Selon l'Autorité fédérale des transports, le train roulait à 128 km/h dans une zone limitée à 48 km/h. Et selon les experts, ce déraillement aurait pu être évité si un système de limitation de vitesse utilisé depuis des années avait été installé sur ce tronçon. Sur Twitter, le président américain Donald Trump a évoqué cet accident qui montre, selon lui, la nécessité pour le Congrès d'approuver un plan national de modernisation des infrastructures. Nos routes, nos ponts, nos tunnels, nos chemins de fer tombent en ruine, plus pour longtemps, a-t-il écrit.
C'est la deuxième fois en deux mois que l'Arabie Saoudite dit avoir intercepté au-dessus de Riyad, un missile balistique tiré par les rebelles yéménites Houthis, ce qui fait craindre une montée des tensions dans le Golfe. Le point avec Ekiabadou.
L'Arabie Saoudite dit avoir intercepté un missile au-dessus de la capitale. Pour Riyad, les rebelles Houthis yéménites l'ont tiré contre le palais du roi Salman. Le royaume saoudien s'est empressé de qualifier cette attaque d'Irano-Houthi. Aucune victime selon les autorités, mais il visait des zones résidentielles très peuplées de Riyad. Le tir du 4 novembre visait l'aéroport. Washington a affirmé que le premier missile était de fabrication iranienne, ce que Téhéran avait aussitôt démenti, disant qu'il s'agit de fabrication mensongère. L'Arabie saoudite avait renforcé le blocus sur le Yémen, aggravant encore la situation humanitaire déjà catastrophique. La guerre a fait près de 9000 morts et des dizaines de milliers de blessés. En outre, depuis fin avril, plus de 2000 personnes sont décédées du choléra. Suite à de nombreuses pressions sur le royaume saoudien, ce blocus a été allégé.
Le roi Abdallah II de Jordanie a été reçu ce mardi par le pape François au Vatican. Le roi lui a offert un tableau représentant la vieille ville de Jérusalem où figurent le dôme du Rocher et l'église du Saint-Sépulcre. Le pape s'était rendu en Jordanie en mai 2014 dans le cadre d'un voyage au Moyen-Orient qui l'avait ensuite conduit à Jérusalem. Il avait alors appelé au libre accès de tous les croyants, juifs, musulmans et chrétiens, au lieu saint. Le gouvernement de Jordanie, pays gardien des lieux saints musulmans à Jérusalem, a qualifié de violation du droit international la récente décision du président américain Donald Trump de reconnaître la ville sainte comme capitale d'Israël. Israël, par ailleurs, qui est prêt à payer le prix de la récente décision des États-Unis sur Jérusalem, mais n'acceptera pas la poursuite des tirs de roquettes palestiniennes. C'est ce qu'a indiqué le ministre de la Défense Avigdor Lieberman. Un certain nombre de ces roquettes ont été interceptées par le système anti-aérien israélien. Passe d'armes entre les présidents français et syrien. Emmanuel Macron a qualifié d'inacceptables les vives critiques adressées la veille par Bachar al-Assad, qui accusait la France de soutien au terrorisme. Nous avons été cohérents depuis le début en luttant contre un seul ennemi, le groupe État islamique en Syrie, a déclaré M. Macron. Le peuple syrien a un ennemi, il s'appelle Bachar. C'est une réalité, a-t-il poursuivi, évoquant les millions de Syriens ayant fui leur pays depuis la révolte réprimée de 2011 dans la foulée du printemps arabe. Le président allemand et la chancelière ont reconnu à l'occasion du premier anniversaire de l'attentat du marché de Noël de Berlin les défaillances de l'État pour prévenir l'attaque dans sa mission de soutien aux victimes. Angela Merkel avait été critiquée pour son manque d'empathie ces dernières semaines par une partie des proches des 12 morts et de la centaine de blessés. Et puis bientôt le début du retour des Rohingyas au Bangladesh. Dhaka et Rangoon ont réaffirmé aujourd'hui leur volonté de commencer à rapatrier en Birmanie à partir du mois de janvier des Rohingyas ayant fui vers le Bangladesh. Mais les préoccupations quant à leur sécurité persistent. Les ministres des Affaires étrangères des deux pays se sont rencontrés pour finaliser un accord signé le 23 novembre sur le retour volontaire de près de 750 000 réfugiés qui vivent actuellement dans des camps au Bangladesh. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique, on en parle dans la Minute Éco présentée ce soir par Eric Manirakiza.
Mercredi dernier, la Banque centrale américaine a relevé les taux d'intérêt de 0,25%. L'ancien banquier Prim Nyamoya, consultant auprès de la BAD, explique cette décision de la Fed.
D'avoir une croissance économique soutenue qui approche les 3% en rythme annuel. Le taux de croissance a atteint son plafond. Ensuite, le taux de chômage atteint 4,1%, soit le plus bas niveau depuis 17 ans. Nous sommes dans une situation aux États-Unis de plein emploi. Au-delà de cela, cette situation va créer tout simplement une inflation. C'est pour cela que le relèvement a pour objectif une volonté de juguler l'inflation.
Est-ce une bonne nouvelle pour le consommateur américain?
Pour l'instant, non. Je pense que les taux d'emprunt pour les entreprises et les particuliers devront augmenter, ce qui risque de ralentir les investissements et la consommation. D'autre part aussi, l'argent à taux zéro avait permis la hausse des marchés d'actions depuis 8 ans. La nouvelle politique de la Fed risque d'y apporter des corrections de grande ampleur.
Quel sera alors l'impact sur les pays africains qui utilisent le dollar pour leurs importations?
Cela dépendra surtout de l'évolution de la monnaie américaine sur le marché d'échange. Si le dollar, comme c'est probable, est en hausse, donc les pays africains vont certainement y perdre en payant un peu plus, surtout pour les importations du carburant, qui constitue quand même une grande part des importations des économies africaines. En baisse, ils pourraient y gagner si c'est couplé avec une chute des cours du pétrole, ce qui est également probable. Nous sommes ici dans le domaine de la probabilité, pas dans le domaine de la certitude.
Prim Nyamoya, ancien banquier et consultant auprès de la BAD.
La page des sports avec Nicolas Pineau. Nicolas, bonsoir.
Ah oui, bonsoir Abdelrahman, bonsoir à tous.
Plus de 200 supporters du Zamalek échappent à la prison en Égypte.
La cour d'assises militaire a libéré 226 supporters du club de football égyptien de Zamalek. Ils avaient été arrêtés en juillet et placés en détention provisoire pour destruction de biens et troubles à l'ordre public. On rappelle qu'il y avait eu des incidents très violents dans le stade de Borj El Arab à Alexandrie en raison de l'exclusion du Zamalek de la Coupe d'Afrique des clubs champions. Certains voient dans cette décision un geste d'apaisement alors que l'Égypte veut autoriser le retour du public dans les stades pour les championnats locaux. On rappelle que les matchs se jouaient sans public depuis 2012, quand 72 supporters avaient été tués à Port Saïd à l'issue d'un match entre le Al Ahly, champion d'Égypte, et l'équipe locale d'Al Masri. Ce serait également un geste d'apaisement pour l'Égypte qualifiée pour la Coupe du Monde 2018 en Russie.
Le choc demain entre le Bayern et Dortmund en Coupe d'Allemagne.
À l'Allianz Arena, les Bavarois auront toutes les raisons de redouter le Borussia Dortmund qui s'est imposé à Munich lors de ses deux dernières visites dans cette compétition. Pour ce huitième de finale, à noter que le Bayern Munich vient d'engranger 14 victoires en 15 matchs depuis le retour de Jupp Heynckes sur le banc des Bavarois.
Nouveau scandale de dopage autour du sprinter américain Justin Gatlin.
L'athlète suspendu 2 fois dans sa carrière pour dopage a limogé son entraîneur, pris la main dans le sac par des journalistes du Daily Telegraph auxquels l'entraîneur aurait proposé des produits dopants et de les introduire illégalement aux États-Unis.
Enfin, NBA, le championnat de basket nord-américain.
Boston bat sur le fil Indiana 112 à 111. Oklahoma arrache la victoire contre Denver 95-94. Houston, 14e victoire d'affilée contre Utah 120 à 99. À Los Angeles, défaite des Lakers contre les Clippers en prolongation 114 à 116.
Et puis Kobe Bryant est au panthéon de la franchise californienne de NBA.
Oui, les Lakers ont organisé hier soir une cérémonie de retrait de deux maillots, les numéros 8 et 24 de leur ancienne gloire. Kobe Bryant, désormais accroché au plafond du Staples Center, ces maillots ne pourront plus être portés par des joueurs de l'équipe.
Merci Nicolas.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. On passe au dossier du jour. La Tunisie organisera le 6 mai 2018 ses premières élections municipales depuis la chute de l'autocrate Zine Abdelkader Ben Ali en 2011. L'annonce a été faite ce mardi par le président belge Kaïd Essebsi. Ces élections ont été maintes fois reportées. Au total, près de 5 millions de Tunisiens devront élire les responsables de 350 municipalités sur la base d'un scrutin proportionnel à un tour. Pour analyse, Jacques Aristide s'est entretenu avec Mourad Selami, rédacteur en chef du journal Le Quotidien de Tunisie.
La classe politique n'est pas prête pour des élections qui vont nécessiter 7000 candidats dans 360 municipalités. Donc c'est un nombre très élevé par rapport aux capacités des partis politiques. D'autre part, et c'est très important, il y a le code des collectivités locales. Le nouveau code s'inspire de la nouvelle constitution de 2014. Cette nouvelle constitution accorde un nouveau pouvoir local à ces municipalités. Donc du coup, si on va élire les municipalités sur la base du code des collectivités locales de 1975, ce sont de simples agents administratifs qui appliquent les consignes du gouvernement. Par contre, si on applique la nouvelle constitution, ils vont avoir des budgets, ils vont avoir des impôts locaux, etc. Donc c'est ça qui est vraiment important et qui va donner cette portée locale aux élections, cette portée locale au pouvoir en Tunisie d'après 2011. Donc, puisque ce code n'est pas encore prêt, et puisque il y a beaucoup de tiraillements autour de ce code-là, même si le président de la République a signer l'appel aux électeurs, c'est pas évident que l'on arrivera à faire ces élections le 6 mai 2018.
Bref, pas mal de défis à relever avant la tenue de ces municipales. La commission électorale sera-t-elle prête ?
Exactement. L'ISI, l'instance supérieure indépendante des élections, était en pleine crise. On venait juste d'élire son nouveau président et il y aura à élire trois autres membres, parce qu'il y a une relève chaque deux ans, on a changé le tiers de la commission électorale. De deux, le personnel de l'ISI, après avoir annoncé la tenue des élections en novembre ou décembre 2017, ensuite en mars, elle a dû se séparer de plusieurs centaines de ses employés qui sont tenus à organiser ces élections. Donc, il faut qu'ils recrutent de nouveau. Donc, l'ISI aussi n'est pas vraiment prête pour relever ce défi, à moins qu'ils acceptent de le faire avec le moindre effort.
Si elles ont effectivement lieu, ce seront les premières municipales depuis la chute de Ben Ali en 2011. Quels en seront les enjeux pour la Tunisie ?
Il y a deux importants enjeux pour ces élections-là. D'abord, c'est un scrutin à portée nationale entre deux élections générales. C'est-à-dire, c'est un scrutin bilan de l'exercice du pouvoir durant les quatre dernières années, depuis 2014 jusqu'en 2018. Donc, c'est un test grandeur nature pour le pouvoir en place. Et le second grand enjeu, c'est que puisque c'est municipal, c'est local, si les partis au pouvoir et les autres partis n'ont pas voulu faire les élections, c'est que des surprises dans des élections locales sont toujours possibles. Se trouver face à un pouvoir local qui a de l'autorité, ça dérange vraiment le pouvoir politique et c'est la raison pour laquelle plusieurs partis ont peur de ces élections.
C'était le journaliste Mourad Selami, joint à Tunis.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Au Cameroun, fin de rupture pour le vaccin contre le BCG utilisé pour prévenir la tuberculose chez les nourrissons. Ce vaccin était en rupture de stock depuis le début du mois de décembre dans tous les hôpitaux du pays. Avec l'arrivée des vaccins, les premières prises sont programmées pour ce jeudi. Depuis Yaoundé, la correspondance d'Emmanuel Jultap.
À l'hôpital Bethesda à Yaoundé, une institution sanitaire privée, l'on administrait le vaccin contre le BCG chaque vendredi. Depuis le début du mois de décembre, ce chronogramme n'était plus respecté, faute du dit vaccin. Situation similaire à l'hôpital de district de santé de la Cité Verte, une formation sanitaire publique. Jeanne, une jeune mère, revient du dit hôpital. Elle est sensibilisée sur les précautions à prendre en attendant la disponibilité du vaccin.
On nous conseille d'éviter les enfants contre les maladies contagieuses. Comme elle a 9 jours, on ne peut pas trouver son médicament à la pharmacie.
Et vous avez cherché à vous faire vacciner l'enfant?
Oui, aujourd'hui même, j'étais là à la Cité Verte.
Qu'est-ce qu'on vous a dit?
Bientôt, quand même, c'est ce qu'on dit.
Bientôt, les vaccins contre la tuberculose seront disponibles. Quand donc? Jeudi prochain, selon le ministre de la Santé publique, qui a rendu public un communiqué sur les ondes de la radio d'État. Les stocks acquis par le gouvernement camerounais étant arrivés à Yaoundé par voie aérienne dans la nuit de samedi à dimanche. Toutefois, au programme élargi de vaccination, la structure qui coordonne les campagnes de vaccination au Cameroun, l'on recommande l'observation des mesures d'hygiène. Joint au téléphone, Joël Makam, chef section communication pour le développement du groupe technique central au programme élargi de vaccination à Yaoundé.
Les vaccins seront disponibles, mais en attendant, quand une maman a un bébé, tout le monde veut porter, tout le monde veut embrasser sur la bouche, il faut éviter ça. Et il faut observer les mesures d'hygiène, c'est tout. Puisque l'enfant n'est pas encore immunisé, l'enfant ne peut se contaminer facilement. Par exemple, il y a une grippe qui circule actuellement, il ne faut pas donner les enfants à tout le monde.
Le 9 décembre dernier, Paul Biya, président du Cameroun, a ordonné le déblocage de la somme d'un milliard de francs CFA pour un approvisionnement en urgence en vaccin BCG en rupture. Une annonce qui a fait polémique, puisque deux jours plus tôt, le ministre de la Santé publique justifiait la rupture du vaccin par l'engorgement des commandes dans le circuit international des vaccins. Ce n'est pas la première fois que le Cameroun enregistre une pénurie du vaccin BCG. Yaoundé, Emmanuel Jultap, VOA Afrique.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
Direction Rabat, où l'association marocaine des parents et amis des personnes handicapées mentales a ouvert un restaurant baptisé Hadaf, qui signifie « but » en arabe. Lieu de partage et d'échange, ce restaurant solidaire a pour objectif de changer le regard de la société sur le handicap mental et de favoriser l'insertion professionnelle des déficients mentaux. Raissa Gironda.
On pourrait se croire dans n'importe quel restaurant de Rabat. Pourtant, nous sommes ici, dans les locaux de l'Association marocaine des parents et amis des personnes handicapées mentales. Une quinzaine d'handicapés mentaux s'affairent en cuisine et en salle pour offrir aux clients un service impeccable. Il y a quelques mois, l'organisation a lancé une formation en restauration à ses adhérents, un moyen pour ces jeunes handicapés de gagner en confiance et d'apprendre un métier. Toufik est chef de rang.
Quand je suis arrivé ici, je ne savais rien faire. Après quelques cours, j'ai appris beaucoup de choses. Je suis allé en cuisine et après plusieurs années, je suis devenu bon.
D'après le ministère de la Famille, le Royaume du Maroc compte 2,3 millions de personnes handicapées. Malheureusement, moins de la moitié d'entre eux sont scolarisés et le taux de chômage des personnes en situation de handicap s'élève à 48%, soit 4 fois plus que la moyenne nationale. Amina Mesfer est présidente de l'association Hadaf.
En fait, l'association Hadaf est née d'une initiative parentale. Donc, une famille confrontée à l'handicap de son enfant a décidé de se mettre avec d'autres familles et ainsi devenir plus fort. Et créer ensemble une association dont l'objectif principal est l'insertion sociale et professionnelle des personnes en situation de handicap.
Expérience pilote lancée en partenariat avec l'Initiative pour le développement humain, le restaurant a été conçu pour bousculer les préjugés et servir de tremplin à ces jeunes déficients mentaux, grands oubliés du marché du travail. Youssef est chef cuisinier.
J'aimerais pouvoir travailler et devenir chef cuisinier. J'apprends à travailler pour devenir chef cuisinier. J'aimerais pouvoir travailler et devenir chef cuisinier. J'aimerais être chef cuisinier, avoir une femme et aussi une voiture.
Outre la restauration, l'ADAF forme ses jeunes à différents métiers allant du jardinage à la menuiserie ou la couture afin de permettre leur inclusion sociale et professionnelle et faire comprendre à la société marocaine que les personnes handicapées doivent être considérées comme des citoyens à part entière.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
La fin de cette édition, merci de l'avoir suivi, à la mise en onde de Michel Joseph, à la console Alfredo, présentation Abdourahmane Dia. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook et rendez-vous également sur notre site voafrique.com pour l'actualité 24 heures sur 24. Au revoir.
Retrouvez tous les jours sur Radio Polé FM, l'équipe VOA Afrique et vos programmes favoris. Le Monde Aujourd'hui, À Votre Avis, RM Show et votre leçon d'anglais sur 91.4 FM à Goma. Radio Polé FM, station partenaire de VOA Afrique.
Ici Washington, la voix de l'Amérique. Voici un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis.
Le groupe État islamique relèvera bientôt de l'histoire en Syrie et en Irak. Et alors qu'il se bat pour sa survie, il est primordial de le priver de toute possibilité de se regrouper et sévir à nouveau. Les groupes terroristes disposant de refuges sont à même d'exporter leur violence à travers le monde, frappant notre territoire et ceux de nos plus proches alliés. Nous avons vu Al-Qaïda le faire en Afghanistan dans les années 1990 jusqu'au 11 septembre. Et plus récemment, nous avons vu le groupe État islamique à l'œuvre en Irak et en Syrie, a déclaré l'ambassadeur itinérant américain et coordinateur de la lutte contre le terrorisme, Nathan Sells, devant une sous-commission des affaires étrangères du Sénat récemment. Les États-Unis œuvrent avec les partenaires en Afrique du Nord pour priver les terroristes de capacités opérationnelles dans les vastes zones du continent où l'autorité gouvernementale fait défaut. Pour réduire la menace posée par les groupes terroristes en Afrique du Nord, nous sommes en train d'aider les États fragiles à établir leurs capacités, de même qu'à mettre à contribution la haute expertise de ces États en matière de lutte contre le terrorisme. Nous voulons développer les capacités antiterroristes de nos partenaires africains jusqu'à un niveau où ils n'auraient besoin de l'assistance des États-Unis, a expliqué l'ambassadeur Sells. Les États-Unis travaillent avec leurs partenaires pour améliorer leurs capacités d'enquêter, de poursuivre et de juger les crimes terroristes. Pour empêcher les déplacements des terroristes, nous nous concentrons sur l'amélioration de la sécurité aux frontières à travers le partage d'informations, notamment en ce qui concerne les terroristes connus et présumés. Nos efforts pour empêcher la radicalisation et le recrutement d'individus par des groupes terroristes incluent la lutte contre la violente idéologie adoptée par ces groupes. Contrer la radicalisation d'une manière adaptée à chaque pays africain est une autre composante de l'approche globale dans la lutte contre le terrorisme, a souligné l'ambassadeur Sells. Nous avons entrepris ces efforts en coopération avec nos alliés européens, d'autres partenaires clés et les institutions internationales en vue d'amplifier leur impact. Les États-Unis utilisent une gamme d'outils et de ressources et collaborent étroitement avec le gouvernement d'Afrique du Nord et d'autres partenaires pour lutter de manière globale contre le terrorisme, a déclaré l'ambassadeur Searles. Notre programme de formation et nos ressources sont directement mises à la disposition des efforts de nos partenaires pour perturber les opérations terroristes, poursuivre les terroristes présumés et protéger les frontières.
C'était un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis. Washington, la voix de l'Amérique.